Vous savez combien je vous aime. Plusieurs personnes m'ont dit cette semaine que je vous ai fait pleurer dimanche dernier. Alors, j'ai décidé de vous faire sourire ce matin. Mon but n'était pas de vous faire pleurer, bien évidemment, mais d'examiner ensemble le problème de la souffrance. Et je voudrais ce matin vous faire sourire. Et puis je me suis dit que ça serait bien aussi que je vous fasse travailler. Alors, je vais vous demander beaucoup d'attention, c'est très simple. Le sujet de ma prédication ce matin est très simple. Vous savez que Paris est une ville fantastique. On peut visiter Paris en surface, mais on peut visiter aussi Paris en sous-sol. Et je vous propose de visiter Paris en métro. Et dans ma prédication ce matin, il y aura un certain nombre de noms de stations de métro. Et l'idée, c'est qu'en écoutant, vous puissiez les noter. Et à la fin, si vous tombez juste sur le nombre de stations de métro, il y aura une surprise. Au moins, je suis sûr d'avoir l'attention de tout le monde ce matin. Yes! Alors, on va aller no stress, no more. Je vous propose deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 15. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ceci ne fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et le deuxième texte se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 2. Nous commençons notre lecture à partir du verset 1. Jacques, chapitre 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi là, c'est cette place d'honneur, elle te conviendra. » Et que vous disiez au pauvre « Toi, tu te tiens là, debout, et tu bouges plus. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Et puis nous lisons un peu plus loin au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Je vous propose donc une promenade à travers Paris en métro. Et je commencerai ce matin par une station que vous connaissez sans doute bien, nommée Fille du Calvaire. Fille du Calvaire en souvenir d'une congrégation religieuse qui voulait honorer les femmes du calvaire, ces femmes qui furent témoins des suites de la résurrection du Christ. Ils allèrent porter cette bonne nouvelle du Christ ressuscité avec, nous le savons, un succès mitigé, puisque dans un premier temps, les disciples ont refusé de croire les paroles de ces femmes. Heureusement que Paul est venu dire ultérieurement, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais ce que ces femmes avaient vécu était pour elles une expérience si forte qu'elle leur a donné des ailes pour passer par-dessus le problème qu'elles imaginaient et pour oser aller voir les disciples et leur dire « Nous avons vu le Christ ressuscité ». Ce qui prouve que c'est l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité qui est fondamentale pour la foi chrétienne. Elles ont eu le courage d'y aller parce que le contenu du message était aussi rempli d'espérance. Le Christ vous précède en Galilée. C'est-à-dire, il vous précède là où vous vivez. Et les choses n'ont pas changé. Le Christ est avec nous là où nous vivons. Le Christ nous précède là où nous vivons, là où nous sommes, là où nous nous rendons. Et voici la bonne nouvelle. Autre station de métro. Je vous préviens, je ne vais pas vous les dire toutes. Hein. Après, ça sera à vous de les chercher. Elles ont annoncé aux disciples qui, disons-le, étaient restés coincés aux Invalides, car tels des Invalides, ils étaient totalement inutiles pour le maître, puisque nous le savons, il s'était enfermé à double tour pour que personne ne vienne les déranger. Cette équipe que le Seigneur avait formée pendant 3 ans, ils étaient là ensemble. Ils pleuraient, ils se lamentaient, ils étaient dans le deuil, comme le dit Marc. Alors comment croire ces femmes qui annonçaient que le Christ était ressuscité? La même aventure est arrivée encore à 2 disciples qui, eux, étaient partis à la campagne, ils étaient partis sur le chemin vert, tout en pensant à la râpée, la grande aventure qu'ils avaient vécue pendant ces 3 ans avec Jésus, et voilà qu'elle leur paraissait vraiment râpée, cette aventure. On espérait bien que ce serait lui, mais voilà. Voilà. Il est mort. Oh. Il y a bien des femmes qui nous ont dit que, mais... Et c'est alors que, on s'en souvient, Jésus est venu vers eux à leur rencontre, non pas pour leur souhaiter la bienvenue. Ils le prennent pour un quasi-demeuré, puisqu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus parle avec eux comme s'il parlait à des amis. Et il parle d'ailleurs à des amis, et il ne semble pas savoir ce qui s'est passé. Comment tu sais pas ce qui s'est passé? Comment ce prophète puissant en œuvre a été livré? Comment il a été condamné? Comment il a été crucifié? Et quand Jésus a décidé de cesser de jouer à la muette, les 2 disciples l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Vous savez, je crois que l'humour de Dieu se manifeste tout au long de cette entrevue, car ces deux hommes veulent enseigner Jésus lui-même. Et quand ils vont dire à leurs compagnons qu'ils ont rencontré Jésus sur cette fameuse station du chemin vert, les autres disciples ne vont pas le croire non plus. Et je me demande si nous n'avons pas, nous aussi, tendance à expliquer à Dieu en long, en large, nos idées sur ce qu'il devrait faire, sur ce qu'il ne devrait pas faire, comment il devrait agir. Nous sommes tous pareils. Et notre intention, c'est de dire à Dieu comment il devrait agir, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il agit. Voilà aussi, je crois, ce que nous montre cet épisode. On ne voit pas toujours ce que Dieu est en train de faire. On ne voit pas toujours qu'il est en train de changer le deuil en allégresse, comme nous chantons. Mais pour cela, nous devons croire et comprendre que ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de détruire les bastilles que nous avons construites et qui nous retiennent prisonniers. Ce que j'ai tendance à appeler nos certitudes humaines. Et quand Jésus rencontre tous les disciples, il leur reproche leur incrédulité, il leur reproche leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Et je crois qu'il y a deux raisons à cela. D'une part, le jugement qu'ils portaient sur les femmes, c'est vrai qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas trop le droit à la parole, et que si Jésus était ressuscité, c'est certainement pas aux femmes qu'il se serait monté, mais plutôt à ses disciples. D'ailleurs, faut-il vous rappeler que Paul oublie les femmes dans 1 Corinthiens. Il dit, il s'est montré à Paul, à Silas, et puis, mais il oublie complètement les femmes, malheureusement. Et d'autre part, lorsque les deux disciples reviennent de leur promenade, les disciples ne les croient pas non plus. Car ces pauvres sont écrasés par le deuil qu'ils menaient, et ils étaient bien incapables de distinguer cette lueur de soleil au milieu de leur peur. Et ils estimaient que si bonne nouvelle il y avait, elle ne pouvait pas être pour eux. Alors je vous propose de voir d'abord le jugement sur leur apparence. La lettre de Jacques nous met en garde contre toute préférence due à l'apparence. Entre un pauvre qu'on va laisser debout et un riche à qui on va offrir la place d'honneur. Et Jacques tire cette conclusion. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Parce que si vous faites des distinctions entre les hommes, vous commettez un péché. Or, parce que Dieu n'a pas de chouchou, et il faut le rappeler, l'Église est le seul lieu où les barrières doivent tomber. Ce qui faisait dire d'ailleurs à l'apôtre Paul, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni païen, ni esclave, puisque nous bénéficions tous et toutes de la même grâce et du même amour qui vient de Jésus-Christ. Et quand le jugement porté par les disciples sur les femmes entraîne le mépris, on comprend pourquoi le Christ ressuscité leur reproche leur dureté de cœur. Est-ce que, sincèrement, ce matin, nous n'avons pas, nous aussi, à entendre ce rappel à l'ordre de la part du Seigneur ? Dureté de cœur dans l'autre situation également, quand une bonne nouvelle ne peut pas être pour nous. Enfermés dans leur déception, totalement découragés, les disciples refusent de croire la parole des témoins qui ont vu le Seigneur. Et Jésus va leur reprocher cette incrédulité, parce qu'ils échappent ainsi à la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de faire confiance à Dieu. Certains le refusent parce qu'ils s'estiment indignes et ils passent à côté des bénédictions divines. Puisque Dieu ne fait pas de favoritisme et qu'il aime chacun de nous tel que nous sommes, alors pourquoi ne pas accepter humblement ce matin de dépendre de Dieu et de recevoir ses instructions ? Il nous suffit d'écouter le Saint-Esprit en nous. Écouter, puis obéir. C'est ainsi que nous pouvons devenir des serviteurs utiles à Dieu, puisque Dieu veut se servir de nous, comme il l'a fait avec ses disciples. Et du coup, la mission des disciples, aller par tout le monde, devient la nôtre. Elle devient la vôtre et elle devient la mienne. Porter l'Évangile sur toute la terre. Mais où trouver ces forces nécessaires ? Eh bien, nous pouvons la trouver en appliquant la même méthode que Dieu avait prévue pour le peuple hébreu. Vous vous souvenez que quand ils sont entrés dans la terre promise, jusque-là, le peuple avait été nomade, et voilà que devenus sédentaires, ils étaient guettés par une foule de tentations qui se réduisaient à une seule. Puisque la vie sédentaire est si agréable, après tant et tant d'années de vie nomade, le peuple pouvait se dire ici, dans ce bon pays, on va se débrouiller tout seul. On est capable de nous débrouiller tout seul. Avons-nous besoin de Dieu ce matin ? Ou n'avons-nous plus besoin de Dieu ce matin ? Et pour aider le peuple à résister à cette tentation, Dieu avait dit « Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi quand tu étais nomade. » Et je crois que face à la mission d'annoncer l'Évangile, nous devons nous aussi nous souvenir de Jésus victorieux. Victorieux de la mort, il nous précède. Il nous précède. Il est avec nous. Peut-être nous faudra-t-il renoncer à ce qui nous empêche de marcher avec lui. La vie moderne essaie de nous marteler sa vérité, qui est un piège. C'est que la communication avec notre prochain passe obligatoirement par le satellite. Et il est vrai que notre monde aujourd'hui va très vite. Mais rappelons-nous que si notre téléphone portable, si l'ordinateur va très vite, c'est parce qu'il n'a pas besoin de réfléchir. Et le problème, c'est que nous avons besoin de réfléchir. Alors n'allons pas trop vite. Ne nous précipitons pas. Beaucoup trop de gens, beaucoup trop de chrétiens deviennent des esclaves de ce nomadisme mental. Ils se soumettent à l'esclavage de la communication immédiate avec le plus grand nombre de correspondants par courrier électronique. Et aujourd'hui, le SMS, le téléphone, tout cela est là. Et je crois que l'abondance qui est la nôtre nous nuit en définitive, parce que nous n'avons pas communion fraternelle. Nous nous contentons d'envoyer des SMS, nous nous contentons d'envoyer des messages. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue à Ozoir, c'est pas quelqu'un de l'église, je vous rassure, et il me dit « Bonjour, ça va ?» Et je me retourne pour lui parler, il était déjà parti. En fait, savoir si j'allais ou pas, il n'en avait rien à faire. C'est tout simplement parce que c'est entré dans les mœurs. Bonjour, ça va ? Où es-toi ? Ça va ? Et ça va ? Où es-toi ? Ça va ? Par ça, ben ça va. Pour cela, nous avons besoin, je crois, frères et sœurs, d'une nouvelle communion avec Dieu. Le philosophe Hegel nommait la vie quotidienne la croix du présent. Et Hegel disait, il faut accueillir la rose dans la croix du présent. Et pour l'accueillir, il n'y a pas d'autre choix que de porter sa croix. Est-ce qu'on est prêt à porter la croix plutôt que de porter le portable? Ça, c'est accueillir la vie, je crois. C'est accueillir la vie dans la présence du Christ, comme l'ont fait les disciples. Oui, Jésus les a rabroués durement à cause de leur refus de croire. Ils n'ont pas voulu croire les paroles de la résurrection. Jésus aurait pu rajouter, « Mes amis, si vous n'êtes pas capables de croire à la parole de vos amis que vous voyez, comment est-ce que vous allez vous mettre à croire à ma parole maintenant que vous n'allez plus me voir ?» Et je crois que porter la croix du présent, c'est reconnaître nos limitations et nos limites. Nous aussi, nous refusons de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous refusons de lui faire confiance. Nous croyons que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Et ce faisant, nous faisons des reproches à Dieu. Jésus pardonne à ses disciples. Et son pardon devient en eux courage, force et puissance, puisque Jésus et l'équipe qui va porter la mission va aller dans le monde entier. Alors nous pourrions dire, aujourd'hui en 2011, mission réussie. Mission réussie au-delà de leur espérance, puisqu'ils avaient appris à cueillir la rose du pardon dans la croix du présent. La croix du présent, c'est le souvenir de nos fautes, de nos incapacités à éviter le péché. Et ce péché qui est dans notre vie peut paralyser notre présent. Et je crois que contre cette paralysie, nous devons agir comme les Hébreux qui devaient se souvenir, non pas de leur échec, mais devaient se souvenir des actions et des paroles de Dieu. Par conséquent, face à la croix du présent et au souvenir de nos limitations, je vous propose de faire ce que Hegel disait, cueillir la rose du pardon, en nous souvenant que Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous accorde son pardon. En résumé, je voudrais terminer. C'est vrai que la vie, pour vous, pour moi, pour chacun de nous, n'est pas un lit de rose. Et notre vie spirituelle, souvent, est un boulet. Et nous aimerions tellement que notre vie se passe sur les Champs-Élysées. Mais suivre l'étoile en traversant le Jourdain, peut-être par la rue du Bac, ou pour aller écouter le pasteur dans le temple, car c'est la place où l'on parle de la Trinité, qui nous permet d'échapper à l'enfer avec toute sa pompe. Il nous faut nous rappeler que nous devons entrer par la porte dorée, dans le havre de grâce. Tout cela, bien évidemment, avant d'arriver au Père Lachaise. Parce qu'après, ce sera trop tard. Certains, aujourd'hui, pensent que, pour réussir, il faut beaucoup d'art et de métier. Alors qu'en fait, il suffit de se porter volontaire pour suivre non pas les grands boulevards, non pas le chemin vert, mais tout simplement le sentier étroit qui, par la libération du péché, mène à la liberté. Une liberté qui n'a pas été acquise par Lafayette, mais qui a été acquise à la croix, pas celle de Chavot, Ainsi, le chrétien qui saura étudier saint Paul renonce à ses œuvres, renonce à ses opéras et découvre la gaieté. La gaieté dans l'assemblée et une concorde qui n'est pas pure convention. Mais qui est le don du Christ. Nous aimons tellement nous réunir en son nom. Et ce qui nous désole, ce qui me désole, ce qui chagrine, ce qui nous chagrine, c'est évidemment que beaucoup refusent ce voyage. Beaucoup refusent ce voyage vers cette cité céleste, car ils préfèrent ici le commerce, la bourse. Ils sont constamment sur la défense. Et parvenus à la fourche, au pied du mont Parnasse, ils choisissent Alésia plutôt qu'Austerlitz. La défaite est le chemin de la perdition au lieu de la victoire et du salut. Quant à nous, n'oublions pas que nous ne sommes pas des pantins entre les mains de Dieu. Mais nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes en qui nous avons mis notre confiance. Et nous ne nous contenterons pas de Brimborion. C'est une station de métro, oui, Brimborion. Parce que je vois que tout le monde fait ça, je vais quand même vous aider un petit peu. Oh. Donc ne nous contentons pas de Brimborion, mais avec sa force, marchons humblement dans la rue de l'Évangile, pour témoigner de la bonne nouvelle. Alors un jour, Dieu, je le crois, Dieu lui-même, en Jésus-Christ, nous tendant les bras, nous souhaitera la bienvenue dans son royaume. Amen. Amen. Alors, vous avez trouvé combien de stations de métro ? Alors, attendez, 34. 34. 35. 39. Qui a trouvé 42 ? Il y en avait 42. Je garde donc mon cadeau, humblement.